Nous prenons la parole dans Jean 15. Jean 15. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Le Seigneur dit qu'il est le vrai cep, le vrai tronc d'arbre, c'est lui, et que les enfants de Dieu, les chrétiens, sont des branches, des sarments. Et il dit une chose, la branche qui porte du fruit réjouit le cœur de Dieu, mais la branche qui ne porte pas du fruit est coupée, le sarment qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle lorsqu'on lit au verset 4, le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, d'un côté, on dit que le sarment qui ne porte pas du fruit est jeté au feu. Il est arraché, il est coupé. Ici, lorsque nous lisons, on dit que si le sarment ne porte pas du fruit, en réalité, parce que il ne demeure pas sur le tronc. Donc, en quelque sorte, le fait qu'on coupe la branche, le sarment, n'est en réalité la conséquence du retrait de la branche elle-même. C'est comme si elle se coupe elle-même du tronc et finalement, on achève l'ouvrage en mettant la hache ou bien en sciant. Dieu achève l'ouvrage, mais en réalité, c'est la branche elle-même qui se retire. Et c'est là que Jésus dit, il faut demeurer, il ne faut pas se retirer, il faut garder mes paroles, il faut que mes paroles soient la réalité. C'est ça qui fera que vous demeurerez en moi. Donc on peut rester collé tout en étant retiré en réalité. C'est ça. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui veut manifester une colère gratuite sur les gens pour couper les branches qui ne portent pas du fruit. En réalité, les branches qui ne portent pas du fruit, en quelque sorte, elles se sont retirées d'elles-mêmes déjà, mais elles restent juste collées apparemment à l'arbre. En réalité, l'intérieur est déjà, l'endroit de séparation est déjà fait. La ligne de séparation est claire. Et il n'y a que l'écorce qui retient la branche, alors on vient coupe. C'est ce qui fait qu'elle ne porte pas du fruit. Elle s'est retirée toute seule. Le Seigneur dit, demeurez en moi, parce que si vous portez du fruit, mon Père sera glorifié. Le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous parlons de sauver pour servir. Si nous avons été sauvés, c'est pour porter du fruit. C'est pour servir.
Sinon, Dieu nous aurait enlevés, nous amenés au ciel. S'il nous a sauvés, c'est pour servir. C'est comme quand quelqu'un a un diplôme. Ce n'est pas pour décorer sa maison, c'est pour travailler. Et nous, si nous avons été sauvés, c'est parce que nous devions porter du fruit afin que le monde reconnaisse que Dieu est grand à travers le fruit que nous portons. Et Dieu est clair. La branche qui ne porte pas du fruit, en réalité, elle ne demeure plus branchée sur l'arbre, donc elle sera coupée. Et nous lisons Matthieu 9, 36 à 37. Le Seigneur est clair. Toute branche qui est attachée portera du fruit. Donc elle ne forcera même pas. Lorsqu'on s'embête pour porter du fruit, lorsqu'on s'en inquiète, on cherche à forcer, ce n'est pas de Dieu. Dieu dit clairement, il suffit de demeurer en lui, c'est-à-dire d'être attentif à ses commandements, d'être attentif à sa voix, obligatoirement tu porteras du fruit. Obligatoirement. Et donc s'il y a un problème, c'est toi qui t'es retiré. Et nous lisons Matthieu 9, 36 à 37. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. La Bible dit que Jésus est attristé de voir qu'il y a beaucoup de gens sauvés, mais il y a peu d'ouvriers. Mais les gens qui sont dans l'église, ça fait un moment. Pas dans cette église, dans l'église de Christ, ça fait un moment. Est-ce que c'est ça la réalité que nous vivons? En général, dans l'église du moment, qu'est-ce qu'on a à dire? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Les gens ont du mal à se convertir. Alors, qui dit vrai? C'est Jésus? Ou nous, ce que nous constatons? Qui est dans la vérité? C'est clair, c'est Jésus qui est dans la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que les gens disent, mais non, nous vivons une époque où porter du fruit, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a trop de désirs, il y a trop de passions charnelles, il y a l'argent qui est là, nous vivons une époque de technologie, et c'est un peu compliqué d'être fidèle à la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, dans Jean 15, il dit, si vous demeurez à moi, vous porterez du fruit. Alors qui ment? C'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, ou c'est nous qui mentons? Eh bien, c'est nous qui mentons, puisque la parole de Dieu ne peut pas mentir. Le problème se trouve à notre niveau. Le problème, c'est ne trouve pas dans la parole de Dieu. Dieu dit que la moisson est grande. Et bien aimé, ceux qui travaillent le voient. Moi qui vais à gauche, à droite, pour travailler pour le Seigneur. Mon problème, c'est que à chaque fois, je me tiens la tête, je dis, mais la moisson est là, mais il n'y a pas d'ouvrier. Qui aujourd'hui est capable de laisser son travail pour aller se consacrer à sauver les âmes dans une ville donnée? Qui est prêt à se détacher de sa famille pour aller se consacrer à sauver les gens dans une ville? Vous savez, il y a des endroits où je vais, et on va quelque part, on prie avec les bien-aimés. Le frère, il me dit, mais pasteur, même la façon dont tu as prié là, moi je n'aurais pas prié comme ça. S'il pouvait y avoir même quelqu'un pour nous aider à prier, bien-aimé, je dis, mais oui, mais qui? Qui? Donc ce n'est pas la moisson qui fait problème. Ce n'est pas la technologie ou notre époque qui fait problème. Parce que Jésus est clair. Si on est attaché à lui, on porte du fruit. Le vrai problème, c'est que les gens se sont détachés du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas mentir. C'est lui qui dit la vérité. Et on a toutes sortes de justifications pour ne pas servir Dieu. Toutes sortes de justifications pour ne pas porter du fruit. Et ces justifications ne tiennent pas à la lumière de la parole. Certains disent, mais il n'y a pas encore la puissance, il n'y a pas encore le réveil, donc c'est normal, c'est pourquoi on traîne. C'est faux, bien-aimé. Jésus, quand il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, il n'avait pas dit, il faut attendre des moments de réveil. Il a dit, allez, donc c'est un ordre définitif. Et on dit, il n'y a pas de puissance. C'est faux. Jésus a dit, celui qui est attaché au cep portera du fruit. Bien sûr, ce n'est pas à nous de décider exactement quelle puissance doit se manifester. Nous, on doit rester attachés au cèpe et c'est sûr qu'il y aura du fruit. Voilà ce qui nous est certifié. C'est sûr qu'il y a la moisson. La moisson est là. C'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est à nous de nous réveiller. Ce n'est pas la faute de Dieu. La vraie puissance commence lorsqu'on s'attache au Seigneur. Lorsqu'on dit, ma vie est à Dieu. Je vous ai toujours raconté l'histoire de Jackie Poulinger. Cette jeune fille de 23 ans, à qui a entendu une voix qui lui dit, va, va. Elle va voir un pasteur et elle lui dit, mais Dieu m'a dit d'aller. Et le pasteur lui dit, mais si il t'a dit d'aller, alors va, pars. Elle dit, mais où? Elle dit, mais pars et il te dira où. Et elle est partie. Elle a pris le voyage le plus long en bateau. Et puis, arrivée vers Hong Kong, Dieu lui dit de descendre. Elle descend. Arrivée là-bas, Dieu la guide dans la cité interdite, une cité de voyous. Donc cette fille-là devait se violer, même être violée, même le deuxième jour juste d'entrer dans cette cité. Mais personne ne l'a jamais touchée pendant des années. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction de Dieu était sur elle, personne ne pouvait la toucher. Elle a fait des années dans cette cité interdite, elle a converti des personnes, mais elle n'avait rien du tout. Elle ne parlait même pas en langue à l'époque. Elle n'avait rien. Mais elle est partie parce que Dieu lui a dit, pars. Nous on dit, non, non Seigneur, avant que je parte, je veux deux mitraillettes, deux bazookas. Et le Seigneur dit, voilà, pars avec moi. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il a dit, va avec la force que tu as. Moi je serai avec toi. Bien-aimé, on n'a pas d'excuse. C'est une fausse excuse de dire, on attend la grande puissance quand les malades vont commencer à ressusciter, à guérir, les morts vont commencer à ressusciter. C'est faux. C'est Jésus la grande puissance. Attache-toi à lui. Ton problème, c'est que tu n'es pas attaché à lui. Tu cherches les logiques humaines. Tu n'es pas attaché au CEP. C'est ça l'argument. C'est ça la raison plutôt. Bien-aimé. Quelqu'un dira, mais on n'a pas d'argent pour financer l'œuvre. Alors, qui dit vrai? Cette personne ou Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a envoyé ses disciples? Il leur a dit, ne prenez ni bourse, ni sac. Allez les poches vides. Bien, mais quand il leur dit, ne prenez. Déjà, nous aussi, si on nous dit, ne demandez rien. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont se fâcher. Mais là, lui, il dit, non seulement ne demandez rien aux gens, ne prenez pas même pour vous-même. Si tu es d'une famille riche, ne prends pas ton argent. Par les mains vides. Alors, celui qui a donné cet ordre, ment-il? Ou c'est nous qui mentons, nous de notre époque, qui faisons appel à des donations, j'emploie même un mot anglais, on fait appel à des dons de par-ci, par-là, avec des courriers intempestifs auprès des chrétiens pour donner l'argent. C'est nous qui mentons. Dieu a les moyens de faire son œuvre. Il n'a pas besoin de l'argent des hommes. Et il a dit, partez sans bourse ni sac. Et bien aimé, oh Dieu, notre Dieu tout-puissant, hein, la phrase ne s'est pas arrêtée là. À un moment, ils sont revenus. Il leur a dit, quand je vous ai envoyé sans argent, sans bourse, vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, non, on n'a manqué de rien. Voilà, Dieu donne la démonstration dans sa parole qu'ils n'ont rien, ils n'ont manqué de rien. Bien-aimés, pourquoi? Nous, on fait des conditions. On dit non, 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 non. Pour bien chanter, il nous faut la guitare de 2 500 €. Mais non, Dieu dit non, on commence par la voix. Pour que je chante, il faut du matériel extraordinaire. Non, Dieu dit, commence par ce qu'on t'a donné comme matériel déjà. Bien-aimés, on veut que Dieu nous donne l'argent avant de faire son œuvre. Il y en a avant d'aller en mission, il faut qu'ils arrangent bien leur salaire qu'ils auront là-bas. Si ce n'est pas clair, ils ne partent pas. Et il y en a qui vont loin aujourd'hui, qui demandent le train ou bien l'avion, première classe avant d'accepter une invitation, hôtel 5 étoiles avant d'accepter une invitation, Bien sûr, ils utilisent des faux versets bibliques, des versets bibliques mal interprétés pour dire, mais tiens, on est des enfants des riches, on a des enfants des rois, oui, mais Jésus était aussi, lui, il était le roi des rois lui-même. Mais il n'avait pas d'endroit où dormir. Nous continuons, bien-aimés. C'est une raison qui ne tient pas devant la vérité de la parole. Jésus envoie ses disciples sans argent. Et ils n'ont manqué de rien. Donc, mettre des conditions liées aux finances, ce n'est pas biblique. Il y en a qui disent, c'est difficile. Moi, je n'ai pas... c'est trop compliqué pour moi ce que Dieu me demande de faire. Et c'est dans le cœur. Toutes les raisons que je suis en train d'énumérer, certains ne les disent pas à haute voix, mais c'est dans leur cœur. Ils disent, ah ben, c'est compliqué, c'est difficile. Le pasteur, peut-être lui, il est né dans une famille qui priait déjà, mais déjà, il ne connaît même pas la famille du pasteur, donc il y a des suppositions, des calculs. Bon, peut-être que lui s'est converti à 12 ans, il n'a pas connu les choses que nous, on a connues. C'est normal qu'il fasse ce qu'il fait, mais moi, je trouve que c'est un peu bien aimé. C'est faux. Lisez la Bible, vous allez voir, Dieu a appelé des gens qui n'étaient pas à la hauteur. Moïse a dit lui-même, je ne suis pas à la hauteur. Dieu a dit, c'est moi qui décide qui est à la hauteur. Voilà, tu pars, je serai avec toi. Gédéon a dit, Seigneur, je suis petit, ma famille est petite, ma tribu est petite. Dieu a dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Quand on lit dans 1 Corinthiens 26 à 27, c'est écrit, regardez parmi vous, les gens que Dieu a choisis, il n'y a pas des intelligents par rapport à ce monde, il n'y a pas des forts de ce monde, il n'y a pas des gens super sages, il n'y a que des gens simples. Dieu a choisi les choses viles pour confondre celles qui sont fortes. Donc, l'argument de dire c'est difficile, en réalité, c'est un argument d'orgueil. On a peur d'échouer, alors on a peur de ne pas réussir par fierté personnelle. Mais rien n'est difficile pour Dieu, puisque c'est Dieu qui agira, ce n'est pas nous qui agirons. Nous devons aller, bien-aimés. Nous devons nous lever pour servir le Seigneur. Ce n'est pas un argument valable. Il y en a qui disent, je suis très occupé, j'ai à gérer ma famille, les enfants. Mais qui a donné la famille? Qui a donné les enfants? Qui a donné cette occupation, le travail? Quand tu n'avais pas cette occupation, eh bien, tu priais qu'on te donne ce travail-là. Maintenant que tu as le travail, tu renies celui qui a donné le travail. Tu vas dire, mais non, je ne le renie pas. Je fais ce qu'il faut quand même. Je viens à l'église de temps à autre. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi vraiment? Et dans ton cœur, tu sais bien ce que Dieu attend de toi. Et l'histoire d'être très occupé, ce n'est qu'une justification. C'est parce que tu as peur d'entrer dans ce que Dieu attend de toi. Parce que tu sais qu'en entrant dans ce que Dieu attend de toi, tu perds. Tu perdras beaucoup de choses qui te semblent chères aujourd'hui, mais qui ne sont d'aucune valeur aux yeux de Dieu, parce que Dieu est tout puissant, il peut remplacer toutes ces choses-là d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas. Je suis très occupé, c'est nous-mêmes qui créons cette occupation-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à regarder un match pendant 2 heures du temps, mais pour servir Dieu, ils disent qu'ils sont très occupés. Il y a beaucoup de personnes qui font des tours en ville pendant les soldes, 4 heures du temps. Mais pour servir Dieu, ils disent ils sont très occupés. Il y a des personnes qui sont accrochées aux séries, les frères à Scott ou à Dodd, je ne sais pas comment. Mais pour servir Dieu, ils ont toujours pas le temps. Non, bien-aimés, les frères à Scott, ils vont pas vous amener, au ciel. Il faut vous réveiller. Ce n'est pas normal de perdre son temps comme ça alors que Dieu t'appelle. Une heure avec Dieu, ça a beaucoup plus de fruits que 46 000 heures avec Santa Barbara qui ne finit jamais. Bien-aimé, pendant 10 ans, ça ne finit pas. Il crée une histoire, des problèmes avec 3 familles. Quand ces problèmes-là commencent à finir, 3 autres problèmes commencent avec une autre famille, d'autres familles. Et toi, tu es toujours comme un pingouin, bien-aimé. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des arguments. Beaucoup de gens sont secs à cause de ça. Parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Ils ont préféré autre chose. Et ils disent, non, je me sens faible. Mais tu te sens faible, c'est normal. Le frère Scott t'a piqué. C'est quoi? C'est normal. Tu te fais piquer et puis tu dis, je me sens faible. Mais on t'a piqué. Je suis très occupé. Mais on t'a pris. Bien-aimé, ça ne marche pas. Un serviteur de Dieu a dit, si tu veux bien gérer le temps, commence par donner le temps à Dieu. Tu verras que ton temps sera très, très, très bien géré. Tu ne seras jamais très occupé. Il y en a qui disent, il y a ma famille qui va me bloquer. Ça va entrer dans une grande... Je vais entrer dans un grand conflit avec ma famille. Jésus a dit, mon père et ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus a dit, celui qui veut me suivre et qui m'aime plus que sa femme, ses enfants, son père, sa famille, il n'est pas digne de me suivre. Bien-aimés, choisissons ce que nous voulons. Sachons qu'une chose, qu'au ciel, il n'y aura pas question de famille. Ça sera question que d'une seule famille, la famille de Dieu, ou alors les perdus en enfer. Il n'y aura pas cela. Pourquoi s'accrocher à ce qui est passager? Aujourd'hui, nous devons aimer beaucoup les membres de notre famille, beaucoup les aimer, mais pour les amener à Dieu. Mais pas les aimer comme on les aimait autrefois, dans une sorte de contrainte du sang. Non, on doit les aimer parce qu'on est né naturellement dans cette famille-là. Il y a un amour naturel. Cet amour naturel, Dieu s'en sert pour qu'on prie beaucoup pour eux, pour qu'on s'attache à leur salut, pour qu'on les aide pour être sauvés, non pas pour qu'on demeure dans cet amour naturel qui finira un jour le jour de notre mort et qui ne sera pas reconduit. À quoi ça sert? Ça ne sera pas reconduit. Autant transformer cet amour en salut et le salut sera reconduit au ciel. C'est cela, bien-aimé. L'histoire de la famille ne montre que, tout simplement, on ne veut pas se soumettre à Dieu. On a choisi son camp. Mais moi, je veux nous dire une chose. Que peut faire ta famille lorsque tu es mourant et que et tous les médicaments n'ont pas marché? Qu'est-ce qu'il peut faire lorsque tu es à un centimètre du divorce et toutes tous les conseils des uns et des autres n'ont pas marché? Mais Dieu a arrêté beaucoup de divorces à un centimètre. Il a permis le mariage, que cela continue. Bien-aimés, faisons le bon choix. On doit aimer la famille, mais l'aimer pour l'amener au salut, non pas demeurer dans un amour charnel comme autrefois. Il y en a qui disent, j'ai peur qu'on pense que je suis dans une secte. Parce que pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sentent dans leur cœur que la façon dont Dieu les appelle, c'est fort. Ils savent que s'ils doivent suivre ce que leur cœur leur dit, eh bien, ils sont en train d'imaginer déjà la réaction. Et moi, c'était pareil quand je me convertissais. Je sentais en moi que je suis sacrifié. Je sentais que la vie que j'allais mener après ma conversion va être une vie où le monde ne me dira plus rien et que j'aurai forcément des problèmes avec tout le monde. Et je me considérais déjà comme sacrifié à l'avance. Jésus dit, avant de le suivre, il faut calculer la dépense. Le fleuve de Dieu n'a pas de limite. On ne peut pas mettre une limite à l'amour pour Dieu. Dire, ben non, je me contenterai juste d'aller 2 jours par semaine travailler pour le Seigneur. Je me contenterai juste. Mais qui peut arrêter le fleuve de Dieu? Jésus nous a expliqué ce que c'est que la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, c'est comme le vent, il souffle. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Comment peux-tu, toi, calculer déjà comment tu vas servir Dieu? Tu ne peux pas. C'est le service de Dieu, c'est de la folie. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et quand j'entendais un jour un prédicateur dire que mais dans son église, il prie à 5h du matin, je me disais, mais non, attends, ils exagèrent. Mais quand on n'a pas le feu, on dit toujours, hein, ils exagèrent. Mais quand Dieu nous a donné aussi le feu, on a commencé à prier à 6h du matin. On a tenu plus d'une année. Bien-aimé, on ne peut pas calculer ce que Dieu veut. Et donc, il faut accepter de mettre la honte de côté. On va nous traiter de sectes, mais oui. Où est le mal? On a traité aussi les premiers chrétiens de sectes. Bien-aimé, comme certains prédicateurs le disent, Quand toi tu vas crier à Dieu à 4 heures du matin, alors que tu es mourant, il va te sauver. Est-ce que tu le traites de secte parce qu'il est toujours actif à 4 heures du matin? Quand tu cries à lui à 18 heures, tu le traites de secte parce qu'il est toujours actif? Quand toutes les églises, vous savez, au moment où on prie, il y a des églises aussi qui prient en même temps. Et d'autres à des heures différentes. Donc les 24 heures sont remplies parce qu'on n'a pas le même fuseau horaire. Dieu est attentif à toutes ces églises-là. Donc c'est un sectaire. Non, c'est l'amour, c'est le feu. Quand on a le feu, il n'y a pas de limite. Et beaucoup ont peur, ils se disent, je sens un feu à moi. Je sais que ça, je serai traité de tous les noms à cause, si je dois laisser ce feu-là se manifester, bien-aimé, laisse ce feu-là se manifester. Parce que si tu le freines, c'est toi qui vas mourir. Et la Bible dit, certains premiers seront des derniers et certains derniers seront des premiers. Les gens qui nous critiquent, eh bien, en réalité, ils ont envie d'avoir le même feu. Et si toi, tu écoutes leurs critiques, tu éteins le feu qui est en toi, le jour où lui qui te critiquait aura un feu comparable à toi, lui, il va sauter. Hein? Il va aller en avant. C'est pourquoi Jésus dit, les prostituées vous devanceront. Certains premiers seront des derniers. Ceux-là qui sont toujours à écouter les critiques pour dire, bon, je vais un peu modérer ma façon de prier, je vais un peu modérer. Bien-aimé, avec Dieu, il n'y a pas de modération. C'est lui qui arrête. S'il trouve qu'on va être épuisé, on va mourir, c'est lui qui nous arrête. Mais nous, on n'a pas à modérer tout seul. Et quand on modère tout seul parce qu'on veut être dans un christianisme potable, accepté par tout le monde, on finit par la mort. Donc on se détache, on ne demeure plus collé, on se détache, on finit par la mort. C'est dangereux. Acceptons la honte d'être qualifié d'extrémiste. Ça fait partie des persécutions liées au fait de suivre le Seigneur. Il y en a qui disent, j'ai peur de tomber dans un péché. Il y en a qui sont paralysés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un péché dans leur vie qu'ils n'ont pas vraiment vaincu. Et souvent, moi, je leur pose la question, mais toi, tu dis que tu as peur de tomber dans le péché, mais si on fait le bilan de 2 ans, là, est-ce que tu es tombé dans ce péché-là? Oh non, alors. Donc, tu écoutes la faiblesse que le diable est en train de te présenter. Qu'elle soit dans ton corps ou pas, cette faiblesse. Mais la preuve, c'est que Dieu t'a maintenu, ça fait un bon moment, tu ne tombes pas dans ça. Ton problème, c'est que tu as peur d'être honteux au cas où tu tomberais. C'est la honte qui te fait peur. Mais Dieu qui t'a soutenu, il peut te soutenir même en le servant. Parce que la Bible dit, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas un argument, bien-aimé. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, ne regardons pas à notre faiblesse, regardons à sa toute puissance. C'est cela qu'on doit regarder. Cela est fait ainsi afin que la gloire revienne à lui tout seul. C'est ça la vérité. Que notre faiblesse ne nous fasse pas peur. Il y en a qui disent même, oui, mais il y a tellement de serviteurs qui tombent. Moi, j'ai peur de faire pareil. Mais moi aussi, je dis, mais il y a tellement de serviteurs dans la Bible qui ne sont pas tombés. Paul n'est pas tombé. Jean n'est pas tombé. Jacques n'est pas tombé. Pierre n'est pas tombé. Il y a tellement d'exemples aussi dans nos contemporains qui ne sont pas tombés. Watchman n'est pas tombé. George Miller n'est pas tombé. Donc, il y a plein de gens aussi qui ne sont pas tombés. Il faut aussi s'inspirer de ces gens-là pour dire, ben tiens, comme Paul est allé jusqu'au bout, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi, et bien moi aussi j'irai jusqu'au bout. Je combattrai le bon combat, je garderai la foi. Ceux dont on entend qu'ils sont tombés, peut-être certains étaient déjà des serviteurs du diable, mis là pour tomber par la suite, pour décourager tous les autres à servir Dieu. Mais certains sont aussi de Dieu, ils sont tombés, mais il y a beaucoup qui sont de Dieu, qui ne sont pas tombés, mais comme ils ne passent pas dans les médias, on ne les connaissons pas. Donc, servons-nous des exemples de la Bible où des gens comme Daniel ne sont pas tombés. Ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Eh bien, nous aussi, nous vaincrons, comme Paul. Ce n'est pas une excuse. Il faut que nous puissions accepter de suivre Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu est celui qui nous soutiendra. Et il y en a qui disent, il n'y a pas suffisamment la formation qu'il faut. Bon, donc, tu estimes que Dieu peut te donner une mission alors que tu n'as pas la formation. Donc, tu es plus intelligent que Dieu. Donc, soyons sérieux. Dieu te donnera la mission que tu pourras accomplir avec ce qui est en toi, avec ce qu'il fera par toi. Tu ne peux pas revendiquer une formation compliquée pour faire la mission de Dieu. Fais d'abord ce que tu peux. Et Dieu rajoutera par la suite. Souvent, beaucoup n'ont pas été formés parce que Dieu forme. Hein? Le vrai formateur, c'est le Seigneur. Beaucoup n'ont pas été formés parce qu'ils n'ont pas utilisé le peu que Dieu leur a donné. Ils attendent de grandes explications bibliques, de grandes découvertes bibliques, alors que le peu qui est là, ils ne l'utilisent déjà pas. Commence par utiliser le peu et Dieu te formera pas à pas. S'il doit te conduire dans une école choisie par lui, il te conduira. Mais le plus important, c'est que tu commences à servir avec le peu que tu as. Que tu commences à être à son écoute avec le peu de commandements que tu as. Tu sois fidèle dans ta maison avec le peu de commandements que tu connais. C'est ça déjà qu'il faut faire. Et beaucoup, comme nous sommes dans une société de garantie et de sécurité, ils disent, je n'ai pas de garantie financière par rapport à mon avenir si je dois servir Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais je pourvois leurs besoins. Je ne suis pas en train d'appeler à l'irresponsabilité. Au contraire, à la responsabilité. Il faut être conséquent. Si tu as entendu la voix de Dieu, il faut que tu mettes cette voix à l'épreuve. Si c'est de Dieu, il faut que Dieu... Il faut agir afin que Dieu puisse se manifester, si c'est vraiment lui ou pas. Mais si on reste dans la théorie, on dit, mais j'ai entendu la voix de Dieu, mais j'ai des enfants, j'ai une femme. Mais oui, et Dieu ne sait pas. Il y a des phrases qu'on dit, c'est comme si Dieu ne savait pas ces réalités, ne connaissait pas ces réalités-là. Dieu ne sait pas que tu as une femme, Dieu ne sait pas que tu as des enfants. Non, il le sait. Et Dieu les aime plus que toi-même. Et on veut des garanties financières, des garanties et des garanties. On veut, comme un pasteur dernièrement disait à un frère, tu sais frère, les pasteurs ont une petite retraite. Donc c'est normal que je commence à faire un peu du commerce pyramidal comme les tupperwares. Moi j'ai dit voilà, quelqu'un a perdu la foi. Il veut une grosse retraite pour servir Dieu. Comment ça, bien-aimé? Je connais des gens qui sont dans des pays où ça n'existe même pas le système de retraite, mais qui mangent très bien, qui meurent à 80 ans à l'aise, parce que Dieu est avec eux. C'est ça la vérité, bien-aimé. Revenons à la parole. Les gens diront c'est exagéré. Non, Dieu n'exagère pas. S'il te donne une mission, il n'exagère jamais. Il est là pour pouvoir. En réalité, bien-aimé, je vais nous donner les vraies raisons qui font que finalement nous ne servons pas le Seigneur. C'est écrit dans la parole dans Matthieu 13. Matthieu 13. À partir du verset 1er. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus explique notre comportement par l'histoire de la parabole des semeurs, par un problème de terrain. C'est nous le problème, c'est le terrain le problème, ce n'est pas la semence. La semence est toujours bonne, c'est la parole de Dieu. C'est le terrain le problème. Le Seigneur est en train de nous dire, c'est toi le problème. Si tu traînes dans le Seigneur, c'est toi le problème. Si tu traînes, si ta famille traîne, Peut-être c'est toi le problème. Tu n'es pas entré dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il y a blocage, bien-aimé. C'est toi peut-être le problème. S'il y a des blocages dans ton entourage. Et nous lisons l'explication au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Ici, c'est écrit « ne la comprend pas ». Le verbe original veut dire en quelque sorte « ne l'accepte pas ». Ne la reçoit pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'en nous, il y a quelque chose qui refuse cela. C'est comme il y a quelqu'un qui m'a raconté une chose. Je suis passé quelque part, je ne l'ai pas vu. Et il m'a expliqué que les yeux parfois voient certaines choses que s'ils s'attendaient à les voir. Tu arrives dans un endroit, tu t'attendais peut-être pas à voir telle chose, tu ne verras pas non plus ça. Parce que dans ta tête, souvent vous savez là où il y a les boutiques au rez-de-chaussée, en général, nous ne regardons pas au premier niveau ni au deuxième niveau. Après 5 ans, tu vas connaître le deuxième niveau d'une boutique. De l'immeuble, hein. C'est pas la continuité de la boutique, c'est juste que la boutique elle est au premier niveau. Toi, tu vas toujours à la boucherie là, tu vas à la charcuterie là, mais tu t'intéresses jamais à regarder le premier niveau ni le deuxième niveau parce que tu vas toujours au rez-de-chaussée. Et c'est la même chose avec les yeux. Donc c'est ça que les yeux font. Les yeux parfois sélectionnent les choses parce que le cerveau s'attendait à voir telle chose et tu ne verras que ce que tu t'attendais à voir. Et donc les gens qui ne comprennent pas la parole, c'est des gens qui ont déjà une position. Une position, et cette position fait qu'ils ne veulent pas involontairement, inconsciemment accepter la parole telle qu'elle est donnée. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. De telles personnes qui entendent la parole, mais ils ont tellement de schémas dans leur cœur que cette parole ne fait aucun effet. Eh bien, le diable vient, il enlève cette parole. 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc ce sont des gens que moi j'appelle des touristes. Donc ils sont dans une émotion, la parole est prêchée. Ah, c'était bien, mais c'est juste pour le moment. Vous savez, c'est comme si tu es dans une fête, tu manges un bon plat. C'est fini, c'est juste là que tu l'as mangé. Ça ne va pas continuer forcément. Ils sont là, mais c'était bien. Mais en même temps, en disant c'était bien, il réfléchit déjà par rapport au rôti qu'il mangera le soir. Donc, c'est des touristes. Ils sont là pour profiter d'un moment. Vous savez, quand on fait du tourisme, on va à Marrakech, au Maroc, on va en Tunisie, au Vietnam, on regarde les belles montagnes du Cambodge. Eh bien, c'est des passages. C'est un bon moment qu'on va vivre, mais après ça, c'est fini. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ah, c'est bien. Mais il n'y a pas un travail de profondeur. Il n'y a pas une volonté d'aller plus loin. Et ça reste à la surface. C'est pourquoi c'est normal qu'ils ne portent pas de fruits. C'est des émotionnels. Ils sont là seulement à se réjouir quand l'émotion est là, quand la bonne chose est là. Mais il n'y a pas une vraie remise en question de soi pour dire « bon ». À partir d'aujourd'hui, je change. Non, il y a juste, quand le pasteur appelle les gens à passer devant, ils passent devant pour satisfaire les besoins de ce moment-là. Et après, c'est fini. Bien-aimés, ce sont ces gens-là, et c'est normal, après qu'ils ne portent pas du fruit. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rende infructueuse. C'est le cas le plus fréquent. Ils écoutent la parole. Ils sont d'accord, d'ailleurs, avec tout ce qui est dit. Et ça commence à croître. Mais ces gens-là n'ont pas réalisé que entrer avec Jésus-Christ, c'est fermer la porte du passé. Ils n'ont pas totalement accepté ce fait-là. Ils continuent à mélanger et Jésus et les soucis du monde. Souci d'avoir un enfant. Souci de se marier. Souci d'avoir de belles voitures. Souci du succès. Souci d'être le plus beau, la plus belle. Souci, du maquillage. Souci d'avoir un bon entourage. Souci de rencontrer des hommes politiques. Eh bien, ces gens-là ont reçu la bonne parole, mais ils n'ont pas abandonné la mauvaise parole. Et la mauvaise parole finit par étouffer la bonne parole. Il y en a qui ont le souci de leur honneur. Attends, moi, dans ma vie, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Oh, mon cher, qui es-tu? Un jour, ce n'est même pas quelqu'un qui va te parler, c'est les fourmis qui vont manger ton cercueil petit à petit sous la terre. Tu veux faire le grand devant qui? Un jour, on te lavera avec le formol, hein? Tranquillement. Tu veux faire le grand avec qui, bien-aimé? Il y en a qui disent non. Moi, je suis un vrai Américain, on ne joue pas avec moi. Mais il y a des Américains qui ont perdu leur maison. Il y a des Américains qui sont des SDF. Il y en a qui citent le nom de leur tribu. Moi, je suis un tel, de telle tribu. Chez nous, c'est bien-aimé, oh là là. Tu es chrétien ou d'une tribu? Il faut faire son choix. Ou tu es citoyen du ciel, ou tu es encore allemand, celte, indien, comment dire, pygmée, tout ce que tu veux. Il faut faire un choix. Moi, le jour où je me suis converti, j'ai dit, je suis devenu citoyen du ciel. Toutes les nationalités sont en moi. Et en particulier là où Dieu m'appelle. Donc si on me demande aujourd'hui, quelle est ta nationalité? Comme on est parti jouer au concert hier, j'ai dit, je suis un véritable Normand, enraciné. Toi, viens maintenant me déraciner. C'est toi qui vas te casser les dents. Alléluia. Tu vas me dire, mais tu es noir, oui, oui. Enraciné, parce que moi, je suis Normand avant ma naissance. Dieu avait décidé que je sois d'ici. Maintenant, toi, viens m'enlever. Tu vas rencontrer celui qui m'a établi avant ma naissance, bien-aimé. Beaucoup sont français de naissance. Moi, je suis français avant ma naissance. Qui est le plus fort, bien-aimé? Il faut faire son choix. On est encore dit, tu es en France, ben, pasteur, mais bon. Moi, je suis de telle tribu. Les démons disent merci. Il s'est vendu lui-même. On va l'empêcher de s'établir en France parce que lui, il revendique son appartenance à sa tribu. On va voir s'il va faire du bon boulot ici. On utilise cette phrase-là, on t'empêche de travailler. Voilà. Bien-aimé, il faut faire ses choix. Il faut s'humilier. Les soucis d'honneur vont nous tuer. Les soucis de la gloire vont nous tuer. Les soucis de félicitations vont nous tuer. Le souci d'argent va nous tuer, bien-aimés. Réveillons-nous. Il y a beaucoup de millionnaires qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que l'argent a fait dans leur vie? Et Jésus dit, c'est le souci du monde. Il y en a qui ont les soucis, donc s'ils rentrent chez lui, on doit dresser la table avec une telle nappe, avec telles assiettes, avec... Lorsque c'est la mauvaise cuillère, aïe, le monsieur, il est fâché. Moi, je dis, mais ça alors. Donc, il est encore dans ces soucis-là. Mais comment quelqu'un comme ça peut servir Dieu s'il a un problème de cuillère? Là où on était parti chanter hier, à la fin, il y a un frère qui me dit, mais ça sent le pipi ici. Moi, je dis, mais bien aimé, là, c'est encore bien. On a des endroits où on va aller. Là, ça va sentir la mort. Il y a eu des cadavres, peut-être la nuit passée. Mais là, toi, tu chantes. Peut-être une balle peut siffler, bien-aimé. Non! Il faut choisir son camp. Moi, je choisis le salut des âmes. Voilà. Jésus-Christ,
nous a tellement choisi qu'il est parti même dans le séjour des morts. Il était là. Il a confisqué la clé de la mort. Il y avait des démons impressionnés. Il a dit, allez, taisez-vous, vous sortez. Ils sont sortis. Donnez-moi la clé. Paf, ils ont donné. Le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, Lazare sort. Les gens disent, mais il sent. Il dit, non. Laissez-le sortir. Il sort. Bien-aimé, nous devons faire notre choix. Le souci du confort va nous tuer. Nous devons laisser Dieu nous conduire. Le souci de protection, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont des gardes du corps. Ils ont peur de quoi? S'ils meurent, ils vont au ciel. Et si tu as quatre gardes du corps, les autres viennent à 20, vous allez faire quoi? Donc, quelle que soit la protection que tu vas te donner, on peut toujours renverser cela humainement. Autant compter sur Dieu et laisser Dieu te protéger naturellement. S'il y a des gens qui vont t'entourer parce que vous allez marcher ensemble, c'est naturel comme Jésus marchait avec ses disciples. Il n'y a pas une protection officielle. C'est naturel de marcher. Et si Dieu peut utiliser un apôtre pour empêcher quelque chose, il empêche. Sinon, voilà, la femme a bien touché Jésus. Donc, elle a traversé le mur des apôtres. Bien-aimés, non, revenons à la vérité. Abandonnons les soucis du monde. Ressembler aux gens du monde. Comme je dis souvent, il y en a qui veulent à la fois être pasteur et Michael Jackson. Mais non, il faut faire un choix. Quand tu es pasteur, tu as choisi la simplicité, l'amour, la paix, la rencontre avec les autres. Mais si tu veux en même temps être Michael Jackson, ça veut dire mettre un cache, quelque chose pour cacher le nez, pour ne pas respirer ce que les autres respirent. Ça veut dire être applaudi, les gens tombent évanouis quand tu passes. Donc, mais les gens veulent les deux en même temps. Mais non, il y a un choix à faire. On ne peut pas voir les deux en même temps. C'est ainsi que je vois des pasteurs sur Internet, photo avec Will Smith, tout ça. Moi, j'ai dit voilà. Au lieu de faire la photo avec la Bible, lui, il fait la photo avec Will Smith, bien-aimé. Will Smith, qu'est-ce qu'il va te faire? Bien-aimé, réveillons-nous. On ne peut pas faire les deux. Je sais que ça peut paraître extrémiste. Les gens vont dire, mais oui, mais où est le mal avec la photo? Mais dans le contexte tel qu'il est, il y a un mal. Parce que ces gens-là utilisent ces stars-là pour se faire connaître. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une photo prise au hasard. C'est des photos voulues. Bien-aimés, revenons à la parole. Notre souci, ça doit être quoi? Servir le Seigneur par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous lisons la suite. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. C'est celui qui dit, la parole est vraie, je vais m'y soumettre. Et la Bible dit automatiquement, il porte du fruit. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu porteras du fruit automatiquement. Automatiquement. Le vrai problème, c'est que beaucoup de terrains ne sont pas encore le bon terrain. Ils refusent la profondeur. Et certains ont gardé encore les soucis du monde. Et il y aura étouffement. Il y aura étouffement. Il faut faire un choix pour une conversion totale et tu vas voir, tu porteras du fruit. 30, 60, 100, mais tu en porteras par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas une blague ce que nous prêchons. Il y a un avertissement dans Jean 15. Celui qui ne porte pas du fruit sera retranché. C'est ça l'avertissement. Ne prenons pas Dieu à la légère. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. On croit toujours s'en sortir. Mais un jour, la fin arrive. Il y a la bande qui a sévi en France dans les années 80. La bande des postiches. C'est des gens qui braquaient, qui volaient dans les banques. Ils s'en sortaient tout le temps. Tout le temps, ils s'en sortaient. Mais un jour, alors qu'ils n'avaient pas besoin de voler une banque, parce qu'ils avaient déjà beaucoup d'argent, ils se sont dit, tiens, on va se payer encore une banque parce qu'on a besoin d'un bateau.
Mais le bateau, ils pouvaient l'acheter parce qu'ils avaient suffisamment d'argent. Ils se disent, mais pourquoi payer avec notre argent si on peut facilement voler une banque? Et c'était ce jour-là qu'on les a pris. Et c'était la fin de cette bande. Bien-aimés, on pense toujours que Dieu blague, mais un jour arrive la fin. On pense toujours que j'aurai le temps de revenir à 100% à Dieu. Attention, personne ne connaît son avenir. C'est le jour du salut. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et la Bible dit dans Luc 9. Luc 9. 57. Le Seigneur ne nous donne pas, ne nous laisse pas nous amuser avec l'appel. Son appel est très sérieux. Et il le montre dans Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Ça, c'est le résumé. Ce passage-là, c'est le résumé de la prédication. On donne toutes sortes de justifications pour dire, « Seigneur, je retarde. Plus tard. » Et le Seigneur dit, « Tu es impropre au royaume de Dieu. » C'est le moment de dire maintenant, qui connaît son avenir? Qui connaît son avenir? On met toujours des excuses. Jésus dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Oui, mais c'est quand même ma famille. Et moi, je suis ton roi. Je suis ton Dieu. Allez poser la question à ceux qui travaillent à la présidence. Demandez-leur, quand on les appelle à la présidence et quand la famille a besoin d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Allez poser la question. Bien-aimé, qui t'a donné la vie? C'est Dieu. Il dit, quiconque met la main à la charrue et commence à dire, mais si je ne sers pas Dieu, bon, parce que les pasteurs m'ont déçu. Ah, mais est-ce que Dieu t'a déçu? Voilà. Bon, si je ne sers pas Dieu, parce que les églises aujourd'hui, mais moi, souvent, je dis à ces gens-là, mais comme toi, tu es un bon chrétien, tu es sûr de ça, que tu es un bon chrétien? Oui. Alors, on a besoin des pasteurs comme toi. Commence maintenant. Puisque les autres pasteurs, tous sont mauvais, toutes les églises sont mauvaises, bon, nous allons commencer l'église avec toi comme pasteur, parce qu'on est sûr, au moins, toi, tu es un bon. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, je l'ai fait. Hein. J'étais dans un temps où on vivait autour de nous, on était des responsables d'église, et autour de nous, les églises, on avait l'impression que presque tout était mauvaise. Et le jour où Dieu m'a appelé, je n'ai pas hésité. J'ai dit, bon, puisque j'ai beaucoup critiqué les autres, c'est le moment, moi, de travailler, de montrer que Dieu est différent, Dieu peut faire des choses bonnes. Voilà. Non pas que c'est moi qui suis bon, mais c'est Dieu qui est tout puissant. Je me soumets, il m'appelle, je le laisse faire. Je le laisse faire pour qu'il montre sa bonté. C'est cela. Mais on ne peut pas dire, bah oui, mais bon, aujourd'hui il y a tellement de faussetés, tellement de difficultés. Même celui-là, il prêche, il est dans la vérité, mais on ne sait pas combien de temps il va tenir. Alors là, on devient négatif, on est dans la mort, et on commence à supposer que même quelqu'un qui est dans la vérité va tomber bientôt. Donc on devient la météo spirituelle. Et bien-aimé, non, lève-toi, toi. Au moins tu es sûr que toi tu es bon. Au moins tu es sûr que toi tu veux la vérité. Au moins tu es sûr que toi tu veux l'honnêteté. Toi lève-toi alors dans ce cas-là. Afin que d'autres soient sauvés par toi. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller. Quelle est ta position? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es converti? Regarde la parabole de Matthieu 13. Quel terrain es-tu? Le terrain rocailleux qui reçoit la parole vite, mais qui n'est pas fondé, qui n'est pas dans la profondeur. Le terrain qui reçoit la parole, la plante sort, mais il y a des épines qui étouffent les soucis du monde, les soucis d'être le premier, le plus fort, le plus grand, le plus beau. Quelle est ta position? Celui qui est étouffé par les soucis de la famille, de l'argent. Alors la Bible dit, si tu portes pas de fruits, tu seras détaché. Et quand je dis porter du fruit, ce n'est pas avoir un titre, mais c'est être à la disposition du Seigneur. C'est ça la personne qui porte du fruit, qui dit comme Paul, Seigneur, que dois-je faire? Me voici. Que dois-je faire? Conduis-moi, berger de mon âme. Nous avons le Dieu qui a conduit un enfant à combattre Goliath. Réfléchissez, hein? C'est un Dieu qui est sûr de lui-même et qui n'aura pas la fausse pitié que tu te donnes pour toi-même, te disant, il comprendra, je ne suis pas très fort. Un Dieu qui envoie un enfant devant Goliath. Donc il est sûr que c'est lui qui agira. C'est à toi de faire ton choix comme David l'avait fait. Les fausses pitiés qu'on se fait pour sur nous-mêmes ne comptent pas devant Dieu. Sinon, il n'aurait pas envoyé un enfant devant Goliath. Sinon, il n'aurait pas envoyé 300 hommes de Gédéon devant des milliers et des milliers. Dieu n'a pas pitié de notre faiblesse. Il veut se glorifier dans notre faiblesse. Ne soyons pas têtus. Humilions-nous aujourd'hui, pour dire, Seigneur, c'est vrai que je suis venu en touriste, ça fait un moment. Maintenant, ça doit changer. Je dois arrêter le tourisme. Il y en a qui veulent s'auto-convaincre. Non, mais moi, je ne suis pas touriste quand même. C'est les enfants, je suis trop chargé. Mais non, ce n'est pas moi là. Parce que c'est mon mari qui m'empêche. Non, ce n'est pas moi là. Parce qu'il y a tel blocage. Oh, non, ce n'est pas moi là. C'est les activités professionnelles. Non. Si tu commences à réfléchir comme ça, c'est donc c'est toi. Bien-aimé. Et donc, même si ce n'est pas toi, humilie-toi, dis seulement c'est moi. Pour aller de l'avant. C'est tout. Amen. Nous allons nous lever et prier.